La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair.
S'il est une science qui intéresse de près tout un chacun et que tout le monde suit au jour le jour, c'est bien la météo. Prévoir le temps qu'il va faire dans les jours qui viennent est devenu une nécessité pour organiser les activités courantes, les voyages, la manière de se comporter, de se vêtir, etc. On est tellement habitué à ces prévisions apportées sur un plateau, dans un cadre d'émissions télévisées, ou sur une radio, ou sur Internet, qu'on ne se pose pas la question de la manière précise dont tout cela est calculé et obtenu. Souvent, des gens se plaignent quand les prévisions s'avèrent un peu erronées, sans se rendre compte de l'immensité du travail sous-jacent. Et pourtant, tout ça a tellement changé depuis quelques dizaines d'années, c'est devenu beaucoup plus fiable grâce à des chercheurs de haut niveau et des développements fondamentaux en informatique. Alors comment fait-on les prévisions météo? Quels sont les moyens nécessaires? Comment tout ça a-t-il évolué et continue à évoluer encore à notre époque? Mon invité aujourd'hui est Olivier Mock, ancien directeur général adjoint de Météo France, polytechnicien, ingénieur général des ponts, eaux et forêts, qui a aussi travaillé dans le cadre du programme climatologique de l'Organisation météorologique mondiale aux Nations Unies. Bonjour Olivier.
Bonjour Sylvie. Heureux d'être là.
Olivier Mock a aussi à son actif une grande implication dans la diffusion des connaissances. Il a été 11 ans président de Sciences Animation à Toulouse. Il fait partie des scientifiques qui tiennent, comme il le dit lui-même, à fournir l'info adéquate au moment adéquat, sous la forme adéquate. Ce qui est très important, surtout à notre époque où les informations transmises au public sont souvent très biaisées, sous la forme de ce qu'on appelle les fake news. Donc Olivier, on peut peut-être commencer par l'évolution des prévisions météorologiques depuis un siècle ou deux. Qu'est-ce qui a changé?
Tout a changé. En fait, donc, tu as mentionné l'importance des prévisions météorologiques pour la vie quotidienne. Il faut souligner aussi qu'elles sont devenues précises et qu'elles intéressent énormément de professionnels. Je vais y revenir. C'est vrai qu'on s'intéresse à la météorologie depuis toujours. Hein. Aristote a parlé des météorologiques. C'était d'ailleurs plutôt les sciences de la Terre en général. Hein. Mais on a commencé à avoir des mesures à partir seulement du XVIIe siècle. Le baromètre et le thermomètre ont été inventés au XVIIe siècle. Donc jusque-là, on parle à coup de dictons. On sait ce que c'est que les dictons, bon, on peut les classer, etc. Mais la météo est une science assez curieuse parce qu'on peut quasiment en dater la naissance précisément. Hein. Elle est toute récente. Hein. C'est en 1854, pendant la campagne de Crimée, que la flotte franco-anglaise a été détruite par une tempête. Et Napoléon III a demandé à Le Verrier, alors patron de l'Observatoire de Paris, une enquête en fait. Et Le Verrier est revenu en disant, finalement, sur la Terre auparavant, la tempête était passée et elle est venue sur mer. Et si on avait observé, si on avait mesuré, si on avait regardé ce qui se passait sur la Terre, on aurait pu prévenir de l'arrivée de la tempête. D'autrement dit, c'est l'idée que le temps est organisé et qu'on peut en suivre le déplacement. Donc on a besoin d'observations. On a besoin d'observations et on a besoin de les échanger. Et ça a été extrêmement vite, hein, puisque moins de 20 ans après, en 1873, on a créé l'Organisation météorologique internationale qui avait pour but justement d'échanger les observations. Chacun a besoin de tous les autres.
Ah, excuse-moi, international, qu'est-ce qu'il y avait comme pays?
Il y avait très peu de pays à l'époque. Oui, mais on n'avait pas besoin de beaucoup de pays non plus, parce que pour faire des prévisions à quelques heures, pour que cette méthode soit utilisable, on n'a pas besoin d'observer l'autre bout du monde, hein, puisque ce qui se passe à Sébastopol ne dépend pas de ce qui se passe au Chili ou en Chine quelques heures auparavant. Donc c'était logique.
À long terme, oui, ça en dépend, mais ça, alors, on le verra plus tard.
On va y revenir, oui, bien
mais
sûr.
Pas quelques heures, oui.
Quelques heures. Donc voilà, donc ça c'est important. Et alors ensuite, à partir de ces données, on a pu construire quelques cartes. Et l'idée, c'était la suivante. On a des cartes de pression, de géopotentiel, etc. Sur l'Europe, est-ce qu'on peut... On l'a aujourd'hui 14 mars, par exemple. Est-ce qu'on peut retrouver dans le passé une situation qui était du même ordre? Autrement dit, est-ce qu'il y avait une situation analogue qui permettrait d'essayer de voir ce qui se passe le lendemain? Si le 13 mars de cette année-ci ressemble au 14 avril d'il y a 23 ans, on se dit, bon ben voilà, les deux lendemains seront pareils. Ça, ça n'a jamais marché. Et ça n'a jamais marché parce qu'il y a des millions de paramètres qui entrent en jeu. Mais on pourrait y revenir parce que finalement, cette méthode, c'est bien ce qu'on fait maintenant par l'intelligence artificielle. Alors ensuite, on a Newton. Newton qui décrit la mécanique. Hein. Donc on connaît les équations du mouvement et de la même façon, on peut les appliquer au mouvement de l'atmosphère. Hein. L'atmosphère, on a des lois de la mécanique des fluides. Alors c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a des milliards de molécules. Etc. Et on arrive en 1920, Richardson, qui est un météo extrêmement sympathique, britannique, pacifiste par ailleurs, etc., dit, ben voilà, on connaît les équations, et si on observait le temps un peu partout, eh ben on pourrait calculer la suite. On pourrait calculer la suite de la même façon qu'on calcule la trajectoire d'un boulet de canon, on connaît sa vitesse initiale et sa position, et on calcule à la suite, en fonction des forces qui s'appliquent sur lui, on pourrait faire pareil. Richardson poursuit son affaire en disant, mais voilà, cela dit, ça n'a d'intérêt que si on est capable de calculer la suite et de faire des prévisions avant que la nature s'en charge. Mm-hmm. Et il arrive avec l'idée qu'il faut plusieurs dizaines de milliers je parle bien de calculateurs humains, de mm-hmm. gens qui font des calculs pour faire ça. Et il en conclut donc, c'est impossible. Donc c'est impossible, effectivement. Pour pouvoir calculer en moins de 24 heures le temps de demain, il faudrait 60 000 personnes rassemblées. On arrive à von Neumann. Von Neumann, je dis, juste à la fin de la guerre, donc on a inventé l'informatique et le calculateur, en tout cas. Et von Neumann dit, c'est une grande date aussi, parce qu'il dit, donnez-moi un problème insoluble, je vais m'en charger avec l'ordinateur. Et il se lance dans la météo. Il se lance dans la météo, il écrit, bon, ça marche pas très bien parce qu'il sait pas justement filtrer ce qu'il faut, hein. Mais c'est comme ça que ça marche. Donc, alors en fait, maintenant, où est-ce qu'on en est ? On en est à l'idée que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le temps à Toulouse dans quelques heures dépend de ce qui se passe à Auch ou à Albi. Mais le temps qu'il fait à Toulouse dans 5 ou 6 jours dépend de ce qui se passe sur le globe entier. On ne peut faire des prévisions du temps à Toulouse qu'en ayant des informations sur ce qui se passe au Chili et en Chine, comme je disais tout à l'heure. On ne peut pas regarder simplement par la fenêtre. Par la fenêtre, on voit ce qui va se passer dans quelques heures. Hein. Donc, on a besoin de données sur tout le globe. Et donc, cette organisation météorologique internationale dont je parlais, on a besoin maintenant de rassembler les observations venant de l'ensemble des pays du monde. Et c'est tellement vrai que après la Seconde Guerre mondiale, on a créé l'Organisation météorologique mondiale, qui est une agence spécialisée des Nations Unies, hein, qui préexistait sous une certaine forme, qu'on a intégrée dans le système des Nations Unies de manière à ce que ça marche. Et c'est ça le fondement de la météo, c'est l'échange de données, et parce que chacun a besoin de tous les autres. Chacun a besoin de tous les autres. C'est tellement vrai que même des pays qui sont adversaires, hein, les Américains et les Cubains ont toujours échangé des données. Bon, à part des guerres vraiment chaudes, on a toujours échangé des données parce qu'on a besoin de tout ça. Il y a une énorme boucle d'informations qui circule autour de la Terre. Chaque pays injecte là-dedans ses propres observations et prend ce qu'il veut. Un service comme Météo France, qui fait des prévisions sur l'ensemble du globe, prend tout. Et pour fixer les ordres de grandeur, donc les grandes unités de calcul de Météo France sont à Toulouse, hein. Les données du monde entier arrivent à Toulouse en moins d'une heure. En moins d'une heure. Et quand je dis du monde entier, c'est vraiment le monde entier. C'est-à-dire, c'est pas seulement la Terre, c'est pas seulement les capitales. C'est aussi ce qui se passe au pôle Nord, c'est aussi ce qui se passe au milieu des océans, c'est aussi ce qui se passe au cœur de la forêt tropicale. On a besoin de tout ça. Et on a besoin aussi de profils verticaux sur les 15 premiers ou les 20 premiers kilomètres d'atmosphère.
Alors là, ça dépend de l'évolution. C'est grâce à l'évolution de l'informatique, à l'évolution des communications. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment c'est possible que ça vienne du monde entier comme ça? Il faut aussi sur place la manière de récupérer les données et tout ça pour que ça aille si vite.
Alors c'est même plus compliqué que ça, parce qu'il y a bien sûr des possibilités techniques de moyens de transmission élaborés, nouveaux, etc. Tout ça existe. Hein. Mais il faut bien voir qu'on a besoin que tous les pays, même les pays les plus pauvres, participent à cette affaire. Hein. Alors on a des données de satellites, etc. On va y revenir. Mais l'une des missions de cette Organisation météorologique mondiale dont je parlais, c'est d'arriver à ce que ces données soient interopérables, qu'elles soient homogènes, qu'on soit capable de les rassembler, etc. Donc c'est quelque chose qui marche très bien pour une raison précise, c'est que chacun a besoin de tous les autres. Donc tout ça arrive à Toulouse en moins d'une heure. Bon, alors il y a toujours des données qui sont en retard, mais ça ne vaut pas la peine de les attendre. Il y a aussi des données qui sont fausses, mais il se trouve que les météos sont dans une position remarquable, parce que comme ils font des prévisions, ils sont capables de voir si une donnée qui arrive, qui est anormale, est anormale parce qu'il se passe quelque chose de vraiment nouveau, ou bien parce qu'elle est biaisée, parce qu'elle est fausse. Donc on fait tout ça, et donc on rassemble des données qui sont extrêmement disparates, hein, puisqu'on a des données au sol, on a des données de ballons qu'on envoie, on a des données de radar qui observent la lame d'eau, la pluie, la quantité d'eau, etc. On a des données de satellites qui font des profils de tout ce qu'on veut, de température par exemple. Hein. On a des données sur les avions, on va même très loin, puisque par exemple les signaux GPS sont perturbés par l'atmosphère. Donc inversement, en observant les perturbations des signaux GPS entre les satellites GPS, qui n'ont rien à voir avec la météo, on peut avoir une idée de ce qui se passe dans l'atmosphère. Alors, il y a des satellites purement météo, hein, de deux sortes. Hein. Il y a des satellites dits géostationnaires qui sont à 36 000 km au-dessus de la planète, au-dessus de l'équateur, et qui ceinturent la Terre. Il y en a un qui nous intéresse particulièrement, qui est au-dessus du golfe de Guinée. Hein. Donc, au-dessus de l'équateur, fixe. Bon. Et puis, on a par ailleurs une collection de satellites qui sont défilants, qui passent au-dessus des pôles, en fait, et qui eux, sont à 800 km d'altitude, hein, donc qui sont plus précis, etc. Et donc, donc tout ça est organisé aussi par l'Organisation Météorologie Mondiale dont je parlais tout à l'heure, avec des variantes locales, hein, pour ce qui est des satellites européens, les pays européens au sens très large, au sens du continent, pas au sens de l'Union Européenne. On crée EUMETSAT qui fait fonctionner des satellites, etc. Donc tout ça marche bien. Et donc on a des quantités impressionnantes de données, hein, qui arrivent chaque jour à Météo France et qu'on veut assimiler dans les modèles. Faire rentrer dans les modèles. Et c'est là que ça devient très compliqué, parce qu'en fait, ces données sont complètement disparates. Hein. L'idée initiale, celle de Richardson, c'est de dire on prend la pression, la température, on l'observe à midi pile, et puis on calcule la suite, comme on calculerait la trajectoire d'un satellite ou d'une planète, en fait. Hein. Là, c'est beaucoup plus compliqué, parce que ces données sont complètement disparates. Les satellites mesurent des radiances, les radars mesurent, etc., les avions mesurent des températures, et tout ça ne sont absolument asynchrone, hein, elles ne sont pas simplement à midi. On ne veut pas gâcher une observation de satellite qui serait à 15h12. Et donc, il y a un problème d'assimilation de données.
Tout ça, ça me semble effectivement très complexe et très compliqué, mais je crois qu'il va falloir une autre émission pour mieux comprendre toute cette modélisation et toutes ces prévisions de la météo. Donc, à la semaine prochaine, Olivier.
Entendu, avec plaisir.